Dans l'Ancien Testament, la délivrance que Dieu promettait à son peuple prenait aux yeux de ce dernier un tour assez matériel, impliquant une idée politique très prononcée. Le livre des Juges parle de ce genre de libération, de salut. Les Hébreux, à l'époque des Juges, subissaient la pression, voire l'oppression de nombre de tribus païennes, telles que les Amoréens, les Jébusiens, les Philistins, les Phérisiens et tant d'autres. Chaque fois qu'une oppression apparaissait, Dieu leur envoyait des libérateurs. Et 15 d'entre eux furent de véritables sauveurs de la nation, les différents juges. Plus tard, les prophètes de Dieu jouèrent en quelque sorte ce rôle de délivrer le peuple hébreu d'un esclavage politique potentiel. Tout ceci change de valeur et de conception sous le Nouveau Testament. La délivrance de politique qu'elle était devient plus ou moins spirituelle. Car il est question maintenant d'être sauvé de la puissance et des conséquences qu'entraîne le péché. Il s'agit de quelque chose de personnel et non plus d'une politique d'ensemble ou nationale. La libération change totalement de sens. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, un passage démontre non seulement le concept du salut, mais sa conjugaison avec un élément de vérité profonde qui concerne l'époque à laquelle il doit se dérouler. L'apôtre Paul dit en effet, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, bien sûr dans le Saint-Testament, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour du salut. » Et Paul vient de citer Ésaïe 49, où le prophète tente de faire comprendre au peuple de Dieu, les Israélites, que Dieu désire les sauver. Le terme « maintenant » provient d'un mot signifiant littéralement à l'origine « occasion décidée par Dieu ». L'apôtre applique cette prophétie à l'ensemble du potentiel de libération du péché. Il dit en effet, le temps est maintenant agréé, accepté, décidé. Maintenant, il vous donne la possibilité, l'occasion d'être sauvé. Il est indispensable, lorsqu'on songe au jour du salut, d'en apprécier tout d'abord la nature, et ensuite de se demander pourquoi ce temps déterminé par le maintenant en est fixé. Heureusement, cette partie de l'Écriture donne une merveilleuse explication concernant la nature du salut. L'apôtre Paul, toujours dans sa deuxième épître aux Corinthiens, nous fait entrevoir ce que Dieu entend vraiment par ce mot ou cet acte de salut. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Que signifie être sauvé? Développer et maintenir avec Jésus-Christ des relations spirituelles profondes. C'est cela, être en Christ. Par le passé, l'homme se voyait assigné par Dieu à un endroit où il devait se trouver, à un temps donné, et son existence en dépendait. Il s'agissait, pour ne prendre que l'exemple de Noé, d'une certaine arche construite, suivant les instructions précises de l'Éternel. Un peu plus tard, toutes les familles israélites durent se préparer, sous l'ordre de Dieu, à préserver l'existence de leurs enfants de premier-nés. Le salut ne fut accordé qu'à ceux des habitants qui avaient bien enduit les linteaux et les montants des portes de leur maison avec du sang d'agneau. C'était le moment ou jamais de le faire. Maintenant, l'endroit spécifié par Dieu pour être sauvé se trouve en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que son existence passée est oubliée. Tous ses péchés, toutes ses tragiques erreurs, tous ses mauvais choix sont effacés à jamais par les mains guérissantes d'un Dieu d'amour. Pierre dit à ceux qui l'entouraient, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quel merveilleux pouvoir qu'a Dieu d'ainsi oublier totalement nos transgressions, nos iniquités, nos péchés, en nous amenant à son Fils, en son Fils, là où nous devenons des êtres neufs, pardonnés, justifiés, là où chaque homme, chaque femme se remplit le cœur, la vie, de paix, de joie et d'espérance, là où se trouve le salut des liens de père à fils entre Dieu et l'homme. La Bible nous donne des instructions, on ne peut plus claires sur le moyen d'être en Jésus-Christ, c'est-à-dire de devenir un nouvel être. Et dans l'Épître aux Galates, la Bible stipule, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il est donc clair que la foi s'exprime en Jésus-Christ, par le baptême en Jésus-Christ, et que c'est par lui que nous devenons une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que ce salut, direz-vous? Paul va nous répondre lui-même. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Par trois fois, Paul utilise ce merveilleux concept de la réconciliation. Il est évident que le verbe réconcilier signifie bien se remettre bien avec quelqu'un, ou encore être à nouveau ami. L'homme, par le péché, érige une séparation entre lui et son Dieu. Par contre, lorsqu'il se réconcilie avec lui, le mur tombe. De nouvelles relations s'installent, normales cette fois-ci. Il redevient l'ami de son Créateur. Toute la notion du salut est là. Dieu, par Jésus-Christ, réconcilie le monde avec lui-même. Mais que veut dire l'expression « être sauvé » ? Ou cela signifie se réconcilier avec Dieu, lui demander d'oublier tout ce qui le séparait de lui, et avoir la certitude qu'il en est ainsi. L'apôtre Paul dissèque en quelque sorte le terme « réconciliation » pour le plus grand bien des Éphésiens à qui il écrit. Après leur avoir démontré que dans le monde extérieur, l'homme vit sans Dieu et sans espoir, il insiste sur le fait qu'une fois en Jésus-Christ, les barrières tombent et que tout change. Maintenant, dit-il, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur des séparations, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et en les réconciliant l'un et l'autre. On a un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous voyons donc que c'est par la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est sur la croix que le Fils de Dieu a payé le prix du péché. C'est sur la croix qu'il a permis que les hommes obtiennent le pardon de leur péché. C'est sur la croix que Jésus refait de l'homme ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un Fils de Dieu et non un enfant de la colère. Cette réconciliation s'accomplit en Christ, en son corps, en son Église. Est-ce tout ? Non, loin de là. En écrivant aux Corinthiens, Paul explique « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Le terme « imputer » veut dire littéralement « porter au compte d'eux ». Implicitement, nous trouvons ici l'idée que Dieu, bien que connaissant parfaitement nos péchés, nos transgressions, de sa volonté, bien sûr, et nos fautes inconsidérées, nous en rend cependant responsables puisqu'il nous laisse le libre arbitre. Notre responsabilité se trouve donc au niveau du choix qui est fait. Toutefois, lorsque Dieu nous pardonne, il ne nous impute plus ses fautes contre notre raison d'être. Elles ne se retournent plus contre nous. Pourquoi ? Car sa rémission entre en jeu. Dieu les oublie à jamais. Nos péchés sont pardonnés pour toujours. C'est ça le salut. Et non seulement nous entrons en Christ, mais nous devenons de plus une créature nouvelle. Le salut ne se limite pas à une réconciliation avec Dieu, mais nos relations filiales vis-à-vis de notre Père Céleste font en sorte que l'Éternel ne porte plus rien à notre compte, que notre ardoise est vierge. Paul continue ses pensées sur le salut lorsqu'il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Le salut, c'est recevoir la grâce de Dieu, et c'est cette faveur non méritée, cette source de salut, que nous explique Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Lorsqu'il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Sans la grâce, le salut ne serait plus qu'une chimère. Paul dit encore, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est évidemment une faveur faite à l'homme. Après notre salut, cette grâce prend toute sa signification dans notre obéissance aux enseignements de cette grâce. L'apôtre Paul enseigne que le moment d'être sauvé se situe dans le présent. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, dit-il. La vie sur notre terre est dominée par sa relative brièveté et sa fragilité. À ce propos, Jacques s'exprime en ces termes. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Aucun médecin au monde ne vous signe un bail sur la vie. Qui sait ce qui peut nous arriver demain? Un accident qui nous enverrait dans l'éternité? C'est ce qui fait dire à Jésus, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Avez-vous jamais pensé à vivre pour Dieu, de manière à posséder l'espérance de vivre avec lui? Si oui, le moment est là. C'est maintenant. Quelqu'un a écrit un jour, l'horloge de la vie ne se remonte qu'une fois, et personne n'a le pouvoir de dire quand les aiguilles s'arrêteront, un soir très tard, ou un matin de bonheur. Il existe une raison pour laquelle Dieu vous dit, voici maintenant le jour du salut. Il est patient, mais jusqu'à quand? Ne laissez pas vos bonnes intentions mourir dans l'œuf. Faites quelque chose. Quoi? Vous mettre à étudier la volonté de Dieu, la Bible. Un jour, les portes du ciel peuvent s'ouvrir ou se fermer pour vous. Que choisissez-vous?